continuer notre moment d'adoration. Je vous invite à prendre vos Bibles, à la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. Que la parole de Dieu fasse son chemin dans nos cœurs. Amen.
C'est vraiment un très grand plaisir d'être avec vous. Ça me rappelle plein de bons souvenirs, tous ces visages familiers, ceux qui ont grandi, que j'arrive absolument pas à reconnaître, ceux qui ont vieilli, que j'arrive non plus pas du tout à reconnaître. Sympa, hein ? Oui, ça fait 10 ans maintenant qu'on vous a quitté. Et quand j'ai dit à Marek et aux enfants que j'allais revenir sur Damari, ils m'ont dit « Oh, la chance, non, mais c'est pas juste, pourquoi on ne peut pas être là ?» Voilà, donc ils vous transmettent toutes leurs amitiés, toute leur affection. Et je suis vraiment un petit peu ému et très content de vous retrouver tous. Le sujet de ce matin, de ce partage, c'est l'évangélisation. Et c'est vrai que... Aujourd'hui, dans la civilisation dans laquelle nous sommes, quand on parle d'évangélisation, c'est toujours un sujet un petit peu délicat. C'est un petit peu délicat, d'abord dans nos milieux, parce que on est amené à se dire d'une manière ou d'une autre, est-ce que l'évangélisation, ça fonctionne? Est-ce que ça marche encore? Et force est de constater, si on prend les statistiques réelles telles qu'elles sont de nos fédés, on se dit, bah, la croissance numérique de l'Église, c'est pas évident. Et donc ça soulève beaucoup de questions sur l'évangélisation, ça suscite des craintes, la peur de l'échec, alors on peut être un peu paralysé, tétanisé. Puis il y a une deuxième crainte qui est là par derrière, de plus en plus forte dans nos églises. C'est la crainte d'être perçu comme étant une secte qui racole. Je pense que tous les jours vous êtes confrontés à ces tensions. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il parle de ça? On met la sourdine. Alors j'aimerais peut-être pour commencer, peut-être rafraîchir la mémoire des plus anciens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que non. Un culte de mai 2000, ça remonte à loin. Je rentrais d'un voyage au Honduras, d'une expérience assez extraordinaire que j'avais vécue, d'une campagne d'évangélisation multisite. On était partis à plusieurs et dans le même pays, au même moment, il y avait eu 176 campagnes d'évangélisation. Et je vous avais raconté ce témoignage et je vous avais dit, pour arriver à mettre en place 176 équipes, on a fait appel à beaucoup de jeunes. Je vous avais raconté l'expérience de jeunes qui avaient prêché dans des prisons, dans lesquelles une église adventiste avait été ouverte par la suite, etc. Et je me rappelle vous avoir dit, vous savez, un jour, dans nos territoires, un jour, nos jeunes vivront des expériences comme celle-là. Alors, les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui, non ? Et j'aimerais partager avec vous un petit peu ce que nous avons vécu, ce que nous avons essayé de mettre en place. Quand je suis rentré de ce voyage, avec l'association des entrepreneurs adventistes, là ici, au niveau de l'Europe, on s'est dit, des projets comme ça, impliquer, engager des jeunes dans l'évangélisation, c'est un besoin présent fort pour l'Église. Et on a commencé d'abord en Espagne, en se disant peut-être qu'un jour on le ferait dans d'autres pays, et moi j'avais vraiment ce désir de le voir naître en France. Et puis voilà, il y a quelques années, ça a démarré. Alors, vous dire qu'au départ, l'enthousiasme fut général de la part de nos frères dirigeants, de se dire on va mettre des jeunes, on va les mettre dans des situations d'évangélisation. On nous a laissé faire. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Alors voilà, il y a maintenant 2 ans, trois jeunes se sont engagés à plein temps dans une action de partage de leur foi. C'est un petit peu ça que je suis venu partager avec vous ce matin. Et puis vous en avez entendu parler, ça vous a été présenté. C'est un défi que l'Église de Damaris s'est lancée de coacher, de soutenir, de supporter ce projet qui s'implante sur Auxerre. Et quand on a démarré ce projet, nous avions 2 objectifs. Un objectif en interne, un objectif en externe. L'objectif en interne, c'était de se dire, si il n'y a pas d'action concrète, pratique, qui est offerte à nos jeunes, que vont-ils devenir ? Je ne sais pas comment ça fonctionne ici, ça fait longtemps que je vous ai quitté. Où sont nos jeunes ? Sont-ils encore dans l'église ? Et l'objectif de Connecte-toi, ça a été de sensibiliser, de pouvoir engager les jeunes dans une action concrète, pratique, de partage de la foi. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'objectif de rencontrer des gens et d'ouvrir des cœurs au message de l'Évangile. Dans la troisième partie de notre partage ce matin, je vous montrerai par des photos, des actions qui se sont mises en place sur Marseille. Entre-temps, Gaëtan vous aura présenté un petit peu son vécu, son expérience, pourquoi il est dans l'Église aujourd'hui. Mais peut-être dans un tout premier temps, j'aimerais partager avec vous 2 idées sur ce qu'est l'évangélisation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, si vous avez entendu parler de Thomas Binley. Rien que déjà les dates, c'est un Anglais. Thomas Binley, vous savez, à cette époque-là, on est début du XVIe siècle, c'est à ce moment-là que va émerger la réforme protestante. C'est un homme qui étudie à Cambridge et qui vit une expérience d'angoisse parce que le christianisme tel qu'il est vécu à l'époque ne lui apporte pas ce qu'il cherche, la paix du cœur. Et en priant, en pleurant, il va être ouvert aux idées nouvelles qui circulent en Europe. Et les idées nouvelles qui circulent en Europe à cette époque-là, c'est le mouvement de la réforme qui démarre. Et il va commencer à s'intéresser à la justification par la foi. Il va être pleinement convaincu et il va commencer à annoncer le message de la justification par la foi en Angleterre. Alors, Rome est très nerveuse parce que ça bouge un peu partout, ça commence à se fissurer un petit peu partout. Et on envoie, pour contrecarrer la prédication de cet homme qui est très dynamique et très influent, on va envoyer un jeune prédicateur, tout frais de Rome, qui va venir pour apporter la contradiction. Vous savez, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Hein. On envoyait quelqu'un pour venir et contredire officiellement les positions défendues par Thomas Binley. Cet homme arrive, on organise dans les églises des débats contradictoires, et il présente... Le catholicisme dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, Et alors qu'il écoutait cet homme prêcher, il se dit, quel merveilleux prédicateur protestant cela ferait. Cet homme est venu pour lui régler les comptes, comme on dit, hein, parce qu'il sait très bien que si à la fin il ne se convertit pas, il n'abjure pas sa foi nouvelle, vous savez très bien ce qu'il attendait. Et le soir, il rentre chez lui et il va se mettre à prier. Il va se mettre à prier dans une prière toute particulière. Il va demander au Seigneur, il dit, Seigneur, donne-moi la clé de son cœur. Et il va prier. Il va prier pendant une heure. Il va prier pendant deux heures. Seigneur, donne-moi la clé de son cœur. Et il va prier pratiquement toute la nuit, jusqu'à ce qu'à un moment, le Seigneur lui répond. Le lendemain, il va rencontrer son contradicteur et il va lui demander à être confessé. Vous pouvez imaginer la joie subtile de cet homme qui se dit, voilà, je suis arrivé à le convaincre. Et en se confessant, il lui raconte toute sa vie. Sa démarche, ses angoisses, ses prières, ses craintes, ses peurs. Il lui raconte, il lui cite les textes qu'il a lus, comment il s'est battu avec ces textes, et comment il s'est laissé convertir. Et il prie, il sort du confessionnal. Cet homme se retrouve seul dans le confessionnal. Il éclate en sanglots. Et l'histoire nous dit que sur le champ, il se convertit au protestantisme, à la réforme. Le lendemain, dans l'église, il prêche sur la justification par la foi. Cet homme qui a été converti, c'est Hugh Latimer. Et Hugh Latimer va devenir un des principaux prédicateurs de la justification par la foi en Angleterre. C'était quoi la prière de Thomas ? Donne-moi la clé de son cœur. Pour la petite histoire, non, c'est pas la petite histoire, c'est la grande histoire. Thomas Binney a été convaincu d'hérésie, condamné au bûcher. Vous voyez sur cette photo, la veille d'être brûlé, il mettait son doigt dans la bougie alors que ses amis venaient le réconforter et prier avec lui en disant « il faut faire face avec courage et je me prépare à la journée du lendemain ». Seule la méthode du Christ donnera un vrai succès. Vous connaissez bien ce texte. Le Sauveur se mêlait aux hommes comme celui qui désirait leur bien. Il montrait de la sympathie à leur égard, s'occupait de leurs besoins et gagnait leur confiance. Et ce n'est qu'ensuite qu'il leur disait « Suivez-moi ». Quel est le mot-clé dans ce texte ? On a beaucoup parlé de clé ce matin. Quel est pour vous le mot-clé dans ce texte ? Il se mêlait aux autres. Et c'est pour moi toute la démarche du Christ. Et ce texte, c'est vraiment ce qui nous a servi de base à notre conception de ce projet Connecte-toi. Alors c'est vrai que se mêler aux autres, ça, parfois ça peut poser des problèmes. Hein ? Être là où ils sont, partager du temps avec eux, partager, essayer de comprendre leurs intérêts. Il faut du discernement. On pourrait parfois glisser et partir dans le grand n'importe quoi pour se mêler avec les autres. Hein. Vous voyez bien sûr tout de suite tous les dangers potentiels, je pense qu'on se comprend. Vous saisissez l'idée que je voudrais amener et qui est aussi très belle dans ce texte du livre Jésus-Christ. La vie de Jean le Baptiste, hein, ne se passait pas dans l'oisiveté, dans un sombre ascétisme, dans un isolement égoïste. De temps en temps, il sortait pour se mêler à la foule. Il observait attentivement ce qui se passait dans le monde. De sa tranquille retraite, il surveillait la marche des événements. Éclairé par l'Esprit divin, il étudiait le caractère des hommes pour voir comment il pourrait atteindre les cœurs avec le message du ciel. Autrement dit, il cherchait la clé du cœur. Étudier le caractère de ceux qui nous entourent, chercher à comprendre comment leur amener l'Évangile. D'une manière quasi obsessionnelle, Thomas Bindé a prié toute la nuit avant de trouver cette idée géniale de demander la confession. Dans la prière, le Seigneur nous donnera les moyens, les outils, le chemin pour trouver la clé des cœurs. Parce que dans les gens qu'on va voir, on peut voir plusieurs choses. Vous connaissez cette image ? Vous voyez quoi, là ? Qu'est-ce que vous voyez ? Une vieille dame ? Vous connaissez une vieille dame ? Vous voyez tous la vieille dame, la vieille sorcière ? Non, vous ne la voyez pas ? Vous ne voyez rien ? Là, vous me désarçonnez, là. Alors, la vieille dame, moi je l'ai appelée la vieille sorcière. Hein. Vous la voyez, la vieille sorcière ? Vous voyez ses cheveux, son œil, son nez, sa bouche, son menton ? Oui, ça va ? Vous la voyez, la vieille sorcière ? Alors, dans cette image, ça y est ? Ah, ça y est ! Hop, mes yeux s'ouvrent ! Enfin, je vois ! Alors, on voit la vieille sorcière. Est-ce que vous voyez la jolie jeune femme ? Oui, alors, il y en a plus qui ont vu la jolie jeune femme. C'est les hommes qui ont vu la jolie jeune femme ou c'est... Non ? Voir, regarder, étudier le comportement, le caractère des gens pour voir comment trouver le chemin vers leur cœur. Pour moi, c'est une idée forte dans l'évangélisation et c'est l'idée qui porte... Alors pour ceux qui ne voient pas la jeune femme, hein, les yeux, son petit nez pointu, si finement, si délicat... Chaque cœur est différent. Chaque cœur a sa clé et notre expérience de partage de l'Évangile, c'est justement pouvoir trouver la clé des cœurs qui nous entourent. Il n'y a pas de technique. Comme Thomas, comme Jean, c'est de la prière, c'est l'étude. On va lire ce texte, qui est la suite du texte qui vous a été lu tout à l'heure. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il est dit, il nous interpelle. « Ayez une bonne conduite au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » À un moment donné, Dieu va agir dans la vie. On ne sait pas quand, comment. Oui, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un temps où quelqu'un trouvera la clé des cœurs. Je vais vous mettre encore à contribution. Quand vous en voyez lutteur de sumo, vous avez tout de suite une image qui vient à l'esprit. Non ? C'est quoi, lutteur de sumo ? L'image qui vient, c'est quoi ? C'est un gros bébé, hein, avec une grosse couche. Hein. Voilà, le lutteur de sumo, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Voilà, ça c'est un lutteur de sumo. D'accord ? Si je vous dis joueur de foot, quel est le nom ou l'image qui vient à votre esprit ? Ah, quand même, hein. Quand même, hein. Quand même, quand même. Zidane. Alors, il m'est arrivé de partager cette prédication en Italie. Et je n'ai pas pu m'en empêcher de la garder quand même. Hein, je veux dire, bon. Surtout qu'à cette époque-là, je veux dire, c'était eux qui avaient gagné. Bon. Voilà, joueur de football, on a nos images, on a nos repères, on sait où on va. Alors, je me suis dit, je vais à Damarie, allez. Si je vous dis bibliothécaire, l'image qui vient, ou le stéréotype, on va dire, hein, une vieille dame avec un chignon, des lunettes. Ouh. Ah. voyez, derrière chaque mot, on a des images, on sait, on arrive à identifier. Maintenant, si je vous pose la question, évangéliste, vous pensez à quoi? Vous pensez à qui? Alors, le moi, c'est pas moi, hein? Le moi, c'est vous, hein? C'est la deuxième idée. La première idée dans l'évangélisation, c'est cette idée d'ouvrir, de trouver la clé qui ouvre un cœur. La deuxième idée, c'est de se dire qui est concerné par l'évangélisation. Vous savez ce que c'est ? C'est un thermomètre. Non, ça c'est un chrétien adventiste. Qu'est-ce qui fait le thermomètre? Quelle est la fonction du thermomètre? Il nous donne la température. Et là, on est très fort pour faire les constats. Ça va pas, c'est pas comme ça, le culte n'était pas très bon, et puis ceci, et puis cela, et puis ce que fait la Fédé, ce que fait ça. On prend la température, on fait des constats, et là, on est les champions du monde du constat. Mais pour moi, l'évangélisation, c'est pas qu'on soit des thermomètres, c'est qu'on soit des... C'est quoi ça? Un thermostat. C'est quoi la fonction du thermostat? S'il fait trop chaud, il va permettre que... S'il fait trop froid, vous voyez la fonction différente. Ça serait bien qu'on soit tous des thermostats, que nous ayons cette capacité d'agir sur le milieu dans lequel nous sommes. Plutôt que de critiquer, de dire « il manque ceci, il manque cela », qu'est-ce que je fais, moi, pour que... J'aime beaucoup cette phrase de Gandhi, permettez-moi de citer Gandhi, j'espère que vous n'en serez pas choqués, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Deux idées fortes dans l'évangélisation et deux idées qui nous portent dans ce projet Connecte-toi. J'aimerais laisser pendant quelques minutes la parole à Gaëtan qui va partager pourquoi il est aujourd'hui dans l'Église.
Bonjour à tous. Alors, l'Église de Marseille vous souhaite, vous dit bonjour de la part de son pasteur Pierre Péchou. Et donc, vous allez me voir pendant quelques mois. Je vais être présent sur Auxerre et sur certains sabbats sur Damary. Donc, on aura l'occasion de se découvrir, d'apprendre à se connaître. Bernard a pensé que c'était intéressant que je puisse faire un court témoignage, d'autant plus que l'horloge avance. Et en fait, je suis né dans l'église. Mes grands-parents sont adventistes, toujours dans l'église. Et mes parents ont été baptisés dans l'église, mais ont quitté l'église. Donc je suis allé à l'église dans ma jeunesse, j'ai participé aux activités de la jeunesse, les tisons, et j'ai quitté l'église. Donc entre 9 ans et 22 ans, j'ai quitté l'église, sans plus jamais retourner à l'église. Et j'ai fait ma vie, comme tous les jeunes font, quoi. Et à un moment, je me suis posé la question, est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que je ne crois pas en Dieu ? Et finalement, la réponse, je l'ai cherchée, parce que ma vie n'allait pas était en contradiction, finalement, avec un certain Dieu. Et donc, je l'ai cherchée, et finalement, la réponse a été que si je crois en Dieu, je ne peux pas continuer à vivre tel que je le fais. Et j'ai décidé à un moment de changer. Et en fait, c'est lorsque j'ai fait mon voyage en Australie, je suis parti en Australie, j'avais emporté, donc je ne m'étais pas encore converti, mais j'étais certain que Dieu existait, au moins c'était déjà un bon départ. Et j'ai pris dans mon sac Jésus-Christ d'Ellen White. Et là-bas, après avoir passé 3 semaines très difficiles parce que je ne parlais pas anglais et que j'étais dans un pays anglais, donc j'ai vécu seul pendant 3 semaines. Après une soirée très arrosée et très arrosée, Voilà. Alors j'étais un jeune, quoi. Hein. En plus, un jeune complètement extérieur à l'église. Donc j'ai beaucoup fumé d'herbe, et donc une soirée de ce style-là. Et je rentre chez moi, complètement déprimé. Et je suis sûr aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit qui travaille en moi. Je me couche, je dors pendant toute une journée, et je me lève, et je sens au fond de moi, il faut que je lise Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris ce livre d'ailleurs. Et je commence à lire Jésus-Christ. Et ça a été une révélation. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté... Et j'ai décidé de suivre Jésus réellement. Et à partir de ce moment-là, alors je me suis retrouvé dans des hôtels de jeunesse, là, avec d'autres voyageurs. Et c'était tellement merveilleux ce que je lisais. Alors je ne lisais pas encore la Bible, mais je lisais Jésus-Christ, qui était finalement la même chose. Et j'avais tellement découvert quelque chose d'extraordinaire que j'allais voir tous les Français, parce qu'il y avait beaucoup de Français qui voyageaient aussi. J'allais les voir et je leur disais, vous savez quoi, Jésus, il faut que... Lisez la Bible. Et sans le vouloir, sans le savoir finalement, je faisais un travail d'évangélisation. C'est pas, j'avais aucune notion d'évangélisation, mais mon premier réflexe, ça a été de parler de ce trésor merveilleux que j'avais découvert. Je suis revenu en France après un an. J'étais toujours en feu. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à travailler dans le monde, entre guillemets. J'ai travaillé dans l'immobilier pendant un an par la suite. Et j'ai pas réussi à vraiment m'épanouir. Et on m'a proposé de faire Connecte-toi. Et j'ai quitté mon travail, j'avais un CDI, j'avais mon appart, j'avais acheté une voiture, donc j'avais des dettes, je devais la rembourser ma voiture. Et j'ai quitté mon travail et je suis allé faire Connecte-toi. Voilà. Et je me suis engagé, maintenant j'entame ma troisième année de mission. Voilà. Merci.
Donc Gaëtan sera parmi vous, j'espère que vous saurez le soutenir par vos prières pendant 3 mois jusqu'à fin décembre pour un petit peu coacher, encadrer l'équipe qui va venir, qui vous sera présentée dans les semaines qui viennent, de ces 3 jeunes qui vont se lancer dans cette aventure. Alors, qui sont ces personnages ? Ce sont nos... Ouais. Vous voyez, on est tous d'accord, ce sont nos pionniers. Sauf que nos pionniers, ils n'étaient pas du tout comme ça. James White, quand il a commencé à prêcher, il avait 21 ans. Et la première année de sa prédication, il a baptisé 1000 personnes. Ellen White, quand elle a eu sa première vision, elle avait 17 ans. Nous, on voit aujourd'hui une vieille dame, les photos, hein, c'est une vieille dame assise un peu légèrement enrobée, je dirais. Voilà, nos pionniers, des longues barbes, c'est tous des gars qui ont quel âge, 70, etc. C'est pas ça, nos pionniers. Ça, et si vous voulez, quelque part, partout où je montre cette image, dans la culture adventiste, ce sont nos pionniers. Non, c'est pas nos pionniers. Nos pionniers, ils avaient 20 ans. Ceux qui ont mis en place l'église adventiste, ils avaient entre 20 et 25 ans. Et quand Joseph Bates était au milieu d'eux, qui était le plus âgé, il avait l'impression d'être un vieillard parce qu'il avait 10 ans de plus. Nos pionniers, ils avaient 20 ans. Et c'est avec cette idée-là, avec cette vision-là, que nous avons essayé de mettre en place ce projet Connecte-toi. Alors, quelques images très rapides. Hein, ce n'est pas nos pionniers. Voilà, ça, ce sont nos pionniers. Des jeunes de 20 ans qui s'engagent, qui laissent tomber leur boulot, qui vendent leurs chevaux, comme l'ont fait nos pionniers, hein, pour s'engager dans le partage de la parole, le partage de la foi. Donc, on a eu 3 jeunes à Marseille, Christelle, Gaëtan et Keturah, qui sont venus passer... X mois. Ce travail a été encadré, soutenu par les autorités ecclésiales adventistes. C'était important, fondamental pour nous de vraiment travailler la main dans la main avec les responsables. Bernard est là et a suivi ce projet depuis le départ. Hein. Pascal, Rodé, on a eu des commissions de travail, etc. Ça a été un accouchement douloureux. Pour le premier, c'est toujours très douloureux. Hein. Ça, vous savez, ça prend plus de temps. Après, une fois que la voie est ouverte, comme on dit, les autres viennent vite. Hein.
vous allez bénéficier à Auxerre de tout cela. Alors,
qu'est-ce qu'ils ont fait ces jeunes? Alors, porte-à-porte, quand on pense porte-à-porte, on pense au porte-à-porte traditionnel. Non, il y a une idée géniale qui a été mise en place en Espagne, qui est l'outil essentiel de ce projet Connecte-toi, c'est la bibliothèque mobile. On aura l'occasion de vous en reparler, de vous expliquer. Des jeunes passent, font du porte-à-porte avec des livres qu'ils prêtent. Et en prêtant un livre, on revient pour le chercher et on discute. Vous avez aimé, vous avez des questions et on en laisse un deuxième, etc. Et au bout de quelques mois que ce travail a été, ils n'avaient même plus le temps de frapper à des nouvelles portes parce qu'il y avait des rendez-vous sur ceux qu'il y avait déjà et il fallait suivre. Et très vite,
des contacts se font, des contacts se nouent.
Donc, travail de porte à porte, des actions de rue, rencontrer les gens dans la rue, là où ils sont, hein, parce qu'on vit dans des villes, les gens sont dans toutes sortes de choses. Hein. Alors, Connecte-toi, c'est une équipe de permanents, ils seront trois à Auxerre, mais c'est aussi des jeunes qui n'ont pas forcément la disponibilité de donner, ils sont là les jeunes, ils n'ont pas forcément la disponibilité de donner 9 mois, peut-être qu'ils peuvent donner que quelques jours, pendant le temps des vacances scolaires ou autres. Et on a reçu des jeunes comme ça qui sont venus pendant les vacances, venus les aider, hein, pour participer, pour partager, pour apporter des forces d'appoint. On a eu 18 jeunes la première année qui sont venus comme ça. Et puis voilà, ben, il faut être dans la rue, au travail, à la rencontre des gens. Avec cette prière, c'était quoi la prière de Thomas ? Seigneur, donne-moi la clé de son cœur. Toutes sortes de choses, alors les free hugs, hein, les câlins gratuits, en français ça passe pas bien, un free hug, c'est aller dans la rue, dans les gens, et puis hein, se faire une embrassade, on se prend, et les gens sont surpris, mais bon, c'est connu, et puis voilà, c'est des contacts, hein. Gaëtan déguisé en Père Noël bleu, pourquoi pas, je veux dire, il faut savoir faire preuve d'originalité. Tu nous dis quelques mots sur le rallye?
Voilà, donc ça peut choquer peut-être dans l'idée de faire des câlins, mais c'est vraiment, voilà, comme dit, toucher les clés. Et c'est par l'amour, hein, on l'a vu encore ce matin, je pense que ça a été dirigé vers... C'est l'amour qui reste, hein, c'est le verset à mémoriser, et c'est ça le plus important. Et c'est vraiment, on croise dans la rue des gens qui finalement n'ont pas de contact physique avec des personnes, parce qu'ils sont seuls, qui parlent avec personne, et être présent à ce moment-là, souvent, ça fait du bien aux gens, et c'est ça le principal, c'est ça que faisait Jésus. Et alors, on l'a fait à grande ampleur l'année dernière, lors de la deuxième année, et on a fait un rallye régional, et on a invité en fait les jeunes de toute la région PACA, la région de Marseille, donc ça, il y a 5-6 églises, et en fait on est descendu le samedi après-midi dans les rues de Marseille. Donc pour ceux qui connaissent Marseille, c'est un peu une folie, quoi, parce que Marseille c'est pas très religieux, il y a beaucoup de musulmans, bon, et on est parti, on était tous avec nos t-shirts jaunes, comme vous pouvez voir sur la photo, et on avait différents ateliers, donc on avait des câlins gratuits, on avait un groupe de chant, on avait des prières gratuites, on priait avec les gens dans la rue, on avait différents ateliers, donc on va vous les présenter plus tard, parce qu'on va essayer de refaire la même chose. Et on a eu énormément de contacts, énormément de personnes qui ont été intéressées par ce qu'on faisait, qui ont été interpellées. Comme je vous disais, des personnes qui avaient besoin à un moment de rentrer en contact avec d'autres personnes, donc qui étaient intéressées par ce qu'on faisait, des personnes seules, des personnes de toutes sortes. Et ça, c'est une bonne expérience, cette personne. Moi, j'étais un peu le régisseur de tout, j'étais pas dans un stand particulier. Et au stand de prière, je vois une fille qui avait un peu des difficultés avec un homme, cette personne, qui était un peu dure avec elle. Et j'y vais, et je prends la discussion à mon compte, et je commence à lui poser des questions. Mais pourquoi est-ce que vous êtes agressif, tout ça? Et on discute. Et lors de cette rencontre, on invitait les personnes, on avait des flyers, à un concert qu'on a organisé un mois après. Et ce gars, je l'invite. Je l'invite au concert, je lui dis venez, après une discussion cordiale. Et le soir du concert, j'étais dans l'organisation, et qui je vois arriver? Je vois cette personne arriver. Et c'était un miracle, parce que c'était la dernière personne qui pour moi allait venir à cette rencontre. Et il est venu, donc Dieu travaille dans le cœur des personnes. Dieu travaille, et même les prières, ça peut paraître fou d'aller dans la rue, mais dans n'importe quelle ville de France ou du monde, aller dans la rue et prier. Et nous l'avons fait, et il y a eu de très bons retours, et on a eu énormément de personnes. Et quand on est rentré le soir, avec tous les jeunes pour faire un brainstorming. Tous les jeunes sont venus me voir. Il y a quelqu'un qui est intéressé pour étudier la Bible, il y a quelqu'un. Ils m'ont donné une dizaine, une vingtaine de numéros de téléphone de personnes qui avaient été intéressées par ce qu'on faisait, qui étaient intéressées d'être suivies. Voilà, ça a été une expérience extraordinaire.
Ici, nous prions pour vous, dans la rue. Les gens viennent et prient. Des musulmans, des juifs, je veux dire, c'était des moments très forts de partage. C'est un peu osé. Il faut être un peu gonflé, comme on dit, totalement inconscient certainement, ça c'est sûr. Mais voilà, donc il y aura aussi des... Il y a du relationnel et il y a aussi de l'événementiel dans le projet Connecte-toi. L'événementiel, ça a été autour de la musique, différents concerts. L'église de Saint-Trond à Marseille a connu une journée assez folle puisque nous avons eu plus de 600 personnes qui sont venues à un concert gospel dans l'église. L'église était pleine à craquer, on ne savait plus où les mettre, on a refusé du monde. On a loué une salle de concert au centre-ville. On avait l'équipe de la comédie musicale, hein, Rencontre avec le Christ. Alors, vous voyez, on ne cache pas le drapeau, hein, mais les gens savent où est-ce qu'ils vont. Et je passe parce que l'heure avance, et j'ai eu des consignes très strictes, que je dépasserai allègrement. De toute façon, je suis là juste une journée, après je disparais. Donc, tous ces événements avaient aussi comme fonction de préparer une mini-campagne d'évangélisation. Hein, on a invité des gens à des conférences sur l'amour. Et le conférencier, c'est pas un pasteur à qui on a donné 6 mois pour se préparer. Hein. C'était un jeune qui avait 25 ans. Et on a loué une salle dans le plus grand cinéma du centre-ville. Et on se disait, est-ce que les gens vont venir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a fonctionné? Et là encore, on a vraiment vu des choses qui dépassaient tout ce qu'on pouvait espérer, puisqu'on a eu une moyenne de 75 participants tous les soirs, dont plus de la moitié n'avait jamais mis les pieds dans une église adventiste et ne savait même pas qui étaient les adventistes. En tout, nous avons eu... Après, il y a eu des repas qui ont été organisés... Pour faire un suivi, parce que tous ces contacts, il a fallu les suivre. Hein. Mais le fait d'avoir ces 3 jeunes disponibles à plein temps, constamment présents, pour aller visiter, pour aller rencontrer les gens, si c'est à 2h de l'après-midi, si c'est à 10h du soir, voilà, c'était une force d'appoint absolument extraordinaire. Cette année, on a fait un concert, il y avait 5 églises, 70 jeunes. Ce n'était pas vraiment un concert. Moi, j'ai appelé ça un culte pour chercheurs, puisque au milieu des chants, les jeunes ont prêché. On avait pris le chant Amazing Grace et on a développé tout ce qu'est le gospel. Le gospel, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et les jeunes ont pu annoncer la bonne nouvelle, inviter les gens à venir étudier la Bible. Alors voilà, Connecte-toi, c'est un mélange de relations, de porte-à-porte, relations intimes, dans cet esprit de trouver la clé d'un cœur. Mais c'est aussi cette action événementielle qui permet à des jeunes de s'enthousiasmer et de s'engager. Voilà, ça c'est le petit groupe aujourd'hui qui existe sur Marseille et qui va donner naissance à une implantation d'église, le fruit de ce travail et d'un travail aussi qui a été fait à Country Life. On passe un petit peu. Première rencontre avec ces gens autour de partage de la Bible, on a eu 17 visiteurs pour étudier la Bible ensemble, et puis ce petit groupe aujourd'hui vit et se développe. Je prendrai quelques minutes pour conclure. Et puis peut-être pour vous, pour faire un appel auprès de vous, parce que on est tous, d'une certaine manière, dans cette situation de prier. Je pense qu'il y en a parmi nous dont les enfants ne sont plus dans l'église. Je sais que c'est une souffrance. On se dit, ils ont cheminé avec nous, ils ont grandi, ils sont alors peut-être qu'ils sont avec le Seigneur, certainement, mais ils sont pas dans l'église. Et on porte ça comme une souffrance et comme une prière, comme une blessure. Comment trouver la clé du cœur? Il y a des parents plus jeunes qui ont le souci de se dire, bon, les enfants, tant qu'ils sont petits, ils viennent. Hein, après, c'est une responsabilité importante quand on est parent d'amener des enfants au Seigneur. Et je crois que c'est pour tous ceux qui ont vécu cette expérience-là, c'est de se dire, mais comment trouver la clé du cœur. Puis, il y a peut-être des personnes dont le mari n'est pas dans l'église ou dont l'épouse n'est pas dans l'église. dans des amis, des proches, on a tous des contacts, des gens avec qui on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui devrait se passer pour que quelque part, un jour peut-être, il s'ouvre à toi. Pour moi, cette expérience-là, c'est vraiment la base, la clé de l'évangélisation. Rien de nouveau. Mais je crois qu'on ne pourra trouver ces clés que dans la mesure où on fera comme Thomas, cet homme dont je vous ai raconté l'histoire, l'expérience de la prière. L'expérience de la prière, d'une prière qui veut vraiment dire quelque chose. Mais quand on prie pour son enfant, quand on prie pour son mari, pour son épouse, quand on prie pour son frère, sa sœur, quand on prie pour ses proches, je crois que ce sont des prières qui veulent dire quelque chose. Et j'aimerais vous encourager pour que l'expérience qui va se mettre à Auxerre soit peut-être aussi l'occasion, au travers de cette jeunesse qui va venir, de ces trois jeunes, plus de tous les autres jeunes qui vont venir partager avec eux, qui vont venir avec vous, que vous allez porter par la prière, que vous allez recevoir, accueillir, avec lesquels vous allez fraterniser, ce sera peut-être aussi l'occasion pour cette Église de retrouver cette ardeur du partage de l'Évangile. Nous n'étions pas un peuple, je n'étais pas adventiste, je n'ai pas grandi dans l'Église, et même si j'ai grandi dans l'Église, je n'étais pas un enfant du Seigneur, jusqu'au jour où le Seigneur, par un ami, un homme, une femme, a su trouver la clé de mon cœur. Aujourd'hui, je suis devant vous. Je n'étais pas un peuple. Nous n'étions pas un peuple. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui meurent dans le monde parce que le monde, on le sait, il est au bout du bout, du bout, du bout, du bout. Ma prière, c'est que, au travers de cette expérience, de ce renouveau que ces jeunes vont apporter sur le projet d'Auxerre, cette église ici, mais nos églises en France, redécouvrent cette passion du partage de l'Évangile. Seigneur, donne-moi la clé de son cœur. Connecte-toi, c'est un truc qui va peut-être devenir un peu comme ça, c'est à Auxerre, c'est loin, mais vous, dans votre vie, il y a quelqu'un qui a besoin que vous viviez cette prière. Il y a quelqu'un qui a besoin que vous trouviez la clé de son cœur pour lui amener le Christ. Ma prière, c'est que nous soyons, nous, tous, dans cette prière. Et que le Seigneur, à l'image de Thomas, peut-être après une journée, deux jours, trois jours, un an, deux ans de prière, nous donne la clé de son cœur pour partager l'Évangile. Amen.